Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission La Classe 974. Vous êtes en direct sur Radio Soleil. Vous êtes également sur Ariel et sur Sunlight. Vous êtes dans l'émission La Classe 974 et vous êtes avec moi, Alexis. Et aujourd'hui, je serai votre professeur sur les ondes pour une classe de troisième. Donc, comme je le disais, vous êtes sur Radio Soleil 87.4, sur Saint-Paul, Le Port, La Possession et sur Internet, radiosoleil.re. Bonjour les marmailles. Vous êtes également sur Ariel FM, dans le nord sur 96.2, dans l'ouest sur 87.0, dans le sud-ouest sur 98.9 et 97.1, dans le grand sud sur 99.6, dans l'est sur 98.1, en application sur Ariel FM, iPhone et smartphone. Bonjour les marmailles de Ariel FM. Vous êtes également sur Sunlight FM. Sunlight FM à Saint-Philippe-Basse-Vallée sur 95.5, à Ravinango-Tremblay sur 105.2, à Vincendo-Saint-Joseph, Petite-Île, à Grand-Bois, sur 92.3. Bonjour les marmailles de Sunlight FM. Bonjour les parents, bonjour tous ceux qui y écoutent à nous, hein. Il n'y a pas que les marmailles apparemment, et tous ceux de l'autre côté de la terre, de l'autre côté de la mer, ceux de la saute de la mer, etc. Bonjour à toutes. Donc là, je suis content de vous retrouver, et content de vous retrouver les enfants de 3e. Bon, je rappelle, les enfants de 3e, on est en déconfinement. Vous êtes à la maison, mais vous êtes toujours en cours. Donc, dit l'autre, il commence à faire nous la morale. Réveille pas trop tard, marmaille. Réveille pas trop tard. Garde le rythme, un rythme scolaire. Réveille 11h, 12h, 13h, les tard, marmaille. Donc, couche un peu tôt et dors bonheur. Réveille. Un peu de bonheur quand même. Vous êtes toujours en classe, vous êtes toujours à l'école, mais effectivement, les conditions n'est pas évident. Vous n'êtes pas dans les conditions normales, vous n'êtes pas dans les conditions optimales, mais nous reste quand même à l'école. Donc, un petit effort. Je sais, effectivement, aujourd'hui, je joue peut-être les grands imbéciles et dites, tu fais le côté moralisateur, tout ça. Oui, mais il faut. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une émission sur la 5e République. Hier, on a parlé de la 4e République qui était mise en place. Et aujourd'hui, on va voir la fin de cette 4e République et le début de cette 5e République. Donc, on ne peut pas parler de fin de la 4e et début de 5e avec deux événements, sans parler de deux événements. La première, c'est bien sûr la guerre d'Algérie. Et la deuxième, la conséquence, le retour de De Gaulle. Je rappelle qu'on a déjà fait une émission sur la guerre d'Algérie, donc j'envoie aux différents podcasts à écouter là-dessus. Donc voilà, tu es en train de faire comme sur YouTube. Je vous propose de cliquer sur le petit truc en haut pour voir le podcast. Oui, bon, je me calme. Promis, je me calme, je reste tranquille. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sous la 4e République, on a vu que c'était effectivement un régime parlementaire. Un régime parlementaire où les députés, effectivement, de la Chambre des députés, les députés, effectivement, pouvaient voter contre le gouvernement. Ce qui entraîne pas mal de renversements du gouvernement. J'explique la situation, c'est qu'on est dans un système sous la 4e République qui est plus des élections au type proportionnel. Ça veut dire que chaque parti est représenté de manière proportionnelle par rapport à ce qu'il représente dans la population. Je simplifie, hein. Un parti qui représente 40% dans la population va représenter 40% des sièges, il y aura 40% de députés au Parlement. Un parti qui a 10%, il y aura 10% de représentation. On est dans un système proportionnel. Ça veut dire qu'il ne va pas se dégager une majorité, un parti qui va dominer les autres. Ça veut dire que ces partis politiques sont obligés de se regrouper à deux ou à trois pour pouvoir former une majorité. Et souvent, ces partis politiques n'ont pas forcément les mêmes idées sur tout. Ça veut dire qu'ils vont former un gouvernement, mais le jour où un des partis n'est pas d'accord avec ce que décide le gouvernement, même s'il se trouve allié, il va tout simplement quitter cette alliance et tout de suite, effectivement, le gouvernement va s'écrouler. Donc, on parle d'instabilité gouvernementale. La 4e République est marquée par une instabilité gouvernementale. Donc, ce qui peut poser problème pour en situation de crise, principalement. Justement, la situation qui nous intéresse, c'est la guerre d'Algérie. La France doit faire face à la guerre d'Algérie. Et là, ça va poser un souci. On a, au mois de mai, le 13 mai 1958, le nouveau président du Conseil, le Premier ministre en l'occurrence, hein, est favorable à une négociation sur l'indépendance de la guerre d'Algérie. On a vu, Alger, les Français d'Algérie refusent toute négociation et vont alors se soulever. Ils vont faire une révolte et ils vont mettre en place un comité de salut public, un gouvernement révolutionnaire, à l'exemple de la Révolution française qui a mis en place un comité de salut public. Et ce comité de salut public réclame le retour au pouvoir du général de Gaulle, en pensant effectivement que le général de Gaulle va continuer la guerre d'Algérie et va refuser effectivement de rendre l'Algérie indépendante. De Gaulle se porte alors candidat à la présidence du Conseil en tant que Premier ministre. Et le 1er juin 1958, le général de Gaulle est investi et par les députés et on va lui donner les pleins pouvoirs pour résoudre la crise algérienne. Donc tous les pouvoirs en disant voilà, sur ce dossier vous avez les pleins pouvoirs, mais on va aussi lui donner les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Je rappelle que De Gaulle avait démissionné parce qu'il était contre la constitution de la 4ème République qui ne donnait pas un pouvoir important au président de la République. Donc il dit moi je veux bien revenir, mais vous me virez, bien sûr il n'a pas dit ça comme ça, hein, mais virez cette 4ème République, cette constitution, moi je veux la mienne, je veux la 5ème, je veux quelque chose qui correspond effectivement à mes idées et à ce que je voudrais. Donc voilà la situation. Et bien sûr, c'est la fin de la 4ème République, mais on avance. Et De Gaulle va se rendre à Alger et il va dire aux Français d'Alger, je vous ai compris, je ne peux pas faire la voix de De Gaulle, oui, bon, je sais, je suis mauvais là-dessus. Et il fait, je vous ai compris. Donc tout le monde applaudit, hein. Vous voulez que je fasse des applaudissements? Voilà, j'ai fait, je suis tout seul. Donc De Gaulle applaudit, du moins, pardon, les Français d'Alger l'applaudissent. Mais De Gaulle, il a dit, je vous ai compris, mais il n'a jamais dit ce qu'il a compris. Voilà, donc les Français d'Algérie pensent effectivement que De Gaulle va continuer cette guerre d'Algérie. Je simplifie en avançant vite, on a déjà vu. De Gaulle, assez rapidement, il comprend qu'on est en période de décolonisation et que ça sera difficile de garder l'Algérie comme colonie. Et plus tard, il va commencer les négociations pour l'indépendance de l'Algérie. Et les Français d'Algérie, bien sûr, se sont sentis trahis par De Gaulle. Donc voilà. Donc De Gaulle va demander à un proche collaborateur que les Réunionnais connaissent, que les Réunionnais plus anciens, bien sûr, pas les troisièmes, va demander à son plus proche collaborateur, Michel Debré, de rédiger une constitution, la nouvelle constitution. Donc l'équipe de Michel Debré va rédiger effectivement la constitution de la 5ème République. Donc Michel Debré, rapidement, les gens le connaissent parce qu'il a été député à La Réunion et pour ce, plus tard, hein, puisqu'il était premier ministre de Gaulle et ensuite quand il est tombé en disgrâce après, bien sûr, l'indépendance de l'Algérie, on lui a conseillé, on lui aurait conseillé, j'ai mis un conditionnel, d'aller effectivement, puisqu'il était battu en France, d'aller vers La Réunion, à l'autre bout, pour pouvoir être député. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était effectivement, à l'époque, c'est une opposition entre Debré, à partir de 1963, Debré qui est plus pour intégrer la Réunion à la République et Vergès et d'autres effectivement qui sont plus pour une autonomie et des fois même pour d'autres vers l'indépendance. Donc il y a une confrontation entre les deux hommes et entre ces deux idées pendant toute une période que les Réunionnais ont connue avec, je dis pas effectivement il y a deux trois qui largaient des broquettes sous le loto etc. Bon c'est les, oui je dirais pas plus, les anciens ont compris. Oui voilà donc il y a deux trois des fois quand il y avait que j'avais dit déjà hein, dans un autre cours. Quand il y avait des manifestations, quand il y avait des rassemblements politiques, quand l'été pour Debré ou l'été pour Vergès, pour que il y avait peu de voitures à l'époque, mais deux, trois, effectivement, il larguait des petits coups sous l'auto, comme ça le loto il perce, et puis il ne pouvait pas aller, effectivement, assister à la manifestation de l'autre côté. Je ferme la parenthèse, nous revenons, effectivement, à notre cours de la Ve République. Donc, le général de Gaulle, premier président du Conseil, effectivement, va charger Michel Debré et l'équipe, bien sûr, de Michel Debré pour rédiger une nouvelle constitution. Et on avait déjà vu que cette nouvelle constitution, le 28 septembre 1958, est adoptée et donne naissance à la 5ème République. Quand je l'avais vu, effectivement, dans une leçon précédente en EMC. Donc, on a cette 5ème République qui s'inspire principalement des idées du général de Gaulle, avec son discours de Bayeux. Donc, je renvoie, tapez Internet, discours de Bayeux, général de Gaulle. Donc, le président de la République, ce que voulait De Gaulle, a beaucoup plus de pouvoir. Il a beaucoup plus de pouvoir. Il est effectivement, il n'est plus élu par le Parlement, mais il est élu par des grands électeurs. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire effectivement il devient autonome, un peu plus libre du Parlement. Il partage le pouvoir avec un Premier ministre qu'il va nommer. Donc le Premier ministre est nommé, ça c'est toujours le cas, par le président de la République, mais ce Premier ministre peut être renversé par l'Assemblée nationale, mais pas le président. Donc c'est là effectivement, ça veut dire qu'on met le Premier ministre en avant et c'est lui qui va gouverner sous la direction du président de la République. Les députés peuvent renverser le Premier ministre, mais on a effectivement de l'autre côté le président de la République qui est au-dessus de tout. On va dire super par rapport à la 4ème République, je ne vais pas dire des choses pour ne pas lancer de débat. Par rapport à la 4ème République où le président était complètement effacé, ou là sous la 3ème République où le président était complètement effacé, on aura là un super président. Et on parle effectivement de régime semi-présidentiel, où le président a un pouvoir très important. Ce pouvoir va être encore plus renforcé par le référendum de 1962, référendum de 1962, où effectivement désormais le président de la République sera élu au suffrage universel direct. Ça veut dire qu'il sera élu directement par les citoyens. C'est le système que vous connaissez, la majorité d'entre vous, puisque les deux, trois n'étaient pas encore nés à cette époque, et moi, on était petit marmaille à cette époque, donc mes rappels, vous ne connaissez pas connu l'époque d'avant. Voilà. Donc, ça veut dire que désormais, c'est le système qui commence à se mettre en place. Le président est élu directement par les Français, ce qui lui donne effectivement une autorité plus importante. Et ce qui, effectivement, de lui, le personnage clé de cette 5e République. Donc, dans ce système de la 5e République, merci à Simi d'avoir mis le schéma ou l'organigramme, si on veut parler un petit peu plus compliqué. Donc, on a bien le suffrage universel avec les adultes, les citoyens adultes majeurs qui vont voter. Je rappelle qu'à l'époque qui nous intéresse, c'est encore 21 ans. D'accord? Ils vont élire l'Assemblée nationale pour 5 ans. Donc je renvoie au cours qu'on avait vu là-dessus. Et on a effectivement le Sénat de l'autre côté qui est élu à l'époque pour 9 ans et de manière indirecte. Et on a le Conseil constitutionnel qui est présent pour vérifier que les lois et tout respectent la Constitution. Le président de la République, effectivement, nomme un Premier ministre qui va gouverner et qui va s'occuper de la politique, effectivement, du pays. Et il est responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut le censurer s'il vote effectivement à majorité, je ne rentre pas dans les détails, qui vote effectivement une motion de censure contre le Premier ministre. Pareil, je vous renvoie effectivement au cours qu'on a eu là-dessus. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il peut lancer une nouvelle élection de l'Assemblée nationale, une nouvelle élection des députés. Voilà. Donc voilà les grands principes. Donc, toujours pareil, je vous renvoie aux cours sur les institutions de la Ve République en EMC. Donc, De Gaulle, bien sûr, devient président de la République. Et dans un premier temps, Michel Debré devient effectivement son premier ministre. Et par la suite, ça sera Georges Pompidou, puisque Debré tombera en disgrâce après, on va dire, le fait que l'Algérie devienne indépendante. Voilà. Donc, De Gaulle, ce qu'il cherche effectivement, c'est le président qui veut un lien direct avec la population. Il est toujours dans cet état d'esprit de la libération. De Gaulle qui arrive sur les Champs-Élysées, accueilli par les Parisiens, il est effectivement ce personnage que les Français ont toujours dans la tête. Et De Gaulle, c'est quelqu'un qui aimait bien les toucher, la population, à les serrer des mains, etc. Oui, il est fini, ça marmaille pendant le confinement. Non, 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 non. Ou le déconfinement aussi. Non, distance physique. Et heureusement, on a changé de nom, c'est plus distance sociale, parce qu'on était chacun dans notre coin. Distance physique. Donc, effectivement, et d'autres présidents ont fait la même chose par la suite, ceux qui veulent aussi aller en campagne. Mais c'était quelqu'un, effectivement, qui aimait bien aller au contact de la population. Et il aime bien les bains de foule, il va utiliser les allocutions télévisées, la télévision, hein, donc ce qui se fait déjà actuellement, aujourd'hui. Après, bon, c'est vrai que les questions, la liberté de la presse était présente, on va dire, mais il y avait on va dire, un contrôle des questions et en vérification des questions qu'on devait poser au président. Bon, par la suite, ça sera plus compliqué, avec la liberté de la presse qui va prendre de plus en plus d'importance. Je dirais pas plus. Voilà, sur la liberté de la presse. Et De Gaulle, effectivement, puisque bon, d'autres vont dire oui, mais aujourd'hui, il y a peut-être aussi, on peut pas poser des questions comme on veut, machin. Là, c'est un autre débat, mais ça saute, effectivement. Donc, De Gaulle va multiplier ses interventions à la télévision. Ça, c'est une nouveauté aussi. Il va aussi multiplier les conférences de presse. Conférences de presse, effectivement, on appelle la presse pour venir. Et le président parle avec des questions qui sont posées au président. J'ai des questions, effectivement, qui sont, on va dire, ou des questions, ou certaines questions vont être refusées, bien sûr. Hein, voilà. Et il va aussi faire plus de référendums que les autres présidents de la République. Donc, il veut avoir un contact vraiment direct avec la population. Et en 1965, pour la première fois, De Gaulle est le premier président de la République est élu au suffrage universel direct. Et bien sûr, c'est De Gaulle. Mais, à la surprise générale, De Gaulle est en ballottage. Ça veut dire effectivement qu'il n'est pas élu au premier tour, contrairement à ce qu'il pensait. Il est élu uniquement au second tour. Donc, ça veut dire que déjà, cette confiance totale au président n'est pas présente. Il ne faut pas oublier effectivement que en 1965, l'Algérie est déjà indépendante et avec les accords d'Évian en 1962, ben, l'Algérie est devenue indépendante. Et là, certains Français effectivement en veulent à De Gaulle de pour eux de ne pas avoir respecté sa parole ou bien effectivement aussi d'avoir laissé ce territoire. Effectivement indépendant. Ce qui était dans la logique. Hein. Voilà. Bon, il y a on va dire aussi De Gaulle face aux Français. On a ce côté où l'histoire, où les gens se rappellent, où la mémoire collective se rappelle de De Gaulle de cette manière. Mais De Gaulle devra faire face à une crise importante, qui n'est pas la crise d'Algérie, où il a réussi à résoudre le problème, hein, même si ensuite il y a eu l'organisation d'armées secrètes, l'OAS, etc., qui en a voulu à De Gaulle, où les généraux se sont révoltés, et ont voulu effectivement s'attaquer au général De Gaulle, commettre des attentats en France, commettre des attentats contre De Gaulle. Ils ont failli réussir cet attentat à l'attentat du petit Clamart, où il semblerait que quand la voiture de De Gaulle passe, bah, la bombe ou autre a mal explosé et De Gaulle en sort vivant. C'est un échec. Après, De Gaulle, effectivement, va amnistier tout le monde et tous en disant effectivement tous ceux qui sont rentrés dans l'OAS, tous ceux effectivement qui ont comploté, etc., contre lui, il les pardonne, ils sont amnistiés, on oublie tout. Et quand vous avez une amnistie, on ne peut pas revenir dans un dossier pénal, dans un dossier tribunal, on ne revient pas sur votre dossier. Ça veut dire que on repart à zéro, comme si rien n'était. Tout ça vous indique, ouais, mais pourquoi elle a fait ça? Tout simplement pour rétablir la paix. Pour rétablir la paix en France, pour dire effectivement, c'est bon, maintenant on se calme, on repart à zéro, et on va dire ça a marché. Il n'y a pas eu de soucis ce côté-là. Dans ce domaine-là, ça a rétabli de l'ordre. Donc, De Gaulle devra faire face effectivement aux manifestations de mai 1968. Manifestation de mai 1968, on aura des étudiants qui vont se révolter. Et on aura des grandes grèves dans toute la France. C'est vraiment une grande manifestation. C'est là qu'on commence aussi à voir les premières oppositions entre les forces de l'ordre de l'autre côté, les CRS, effectivement, les forces de l'ordre et les étudiants. Avec cette mémoire, cette historique où les étudiants laissaient effectivement et les forces de l'ordre ne s'entendent pas du tout. Avec d'un côté, effectivement, ça va être assez violent. Les pavés d'un côté, les matraques de l'autre. Donc, il y aura tout un historique plus tard ou toute une suite peut-être, je ne sais pas. Hein, mais on a dans cette mémoire collective cette année 1968 qui, pour les étudiants ou les forces de l'ordre, hein, ont été ces on dire ces semaines ont été extrêmement violentes. Donc manifestation puisque les étudiants réclament plus de liberté avec l'expression il est interdit d'interdire, on veut la parole, on remet en cause l'autorité paternelle, on remet en cause l'autorité effectivement tout court l'autorité de l'école, on remet en cause effectivement l'autorité du professeur, on remet en cause c'est une remise en cause effectivement de toute une société. qui existait, avec une volonté d'avoir plus de liberté dans plusieurs domaines. Et ensuite, les étudiants, effectivement, ont réussi aussi à ramener avec eux les ouvriers qui sont lancés dans des grèves générales ou autres. Parce que chacun avait des revendications différentes, mais qui se sont retrouvées sur une plateforme de revendications. Donc, c'était un moment extrêmement difficile pour le pays, puisque le pays était quasiment paralysé. Le pays était paralysé et à un moment donné, De Gaulle disparaît pendant quelques jours, il réapparaît après avec un grand discours et on remet à peu près les choses en place. Mais après 1968, les choses ont changé. Je ne vais pas développer là-dessus, mais si on regarde ce qui se passe dans le monde à cette époque, avec Woodstock aux États-Unis ou autre, on est dans tout ce mouvement. C'est pas propre à la France. On est dans un mouvement effectivement qui est propre au monde entier. Avec en France, on aura un petit peu partout, comme tout le monde se promène avec ce petit livre rouge de Mao Zedong, la Chine, etc. Ils avaient une vision de la Chine communiste qui était idéalisée, qui n'était pas bien sûr la réalité, hein, puisqu'on en connaît un petit peu plus aujourd'hui sans critiquer ou voir critiquer la Chine, hein. Bien sûr, c'était une autre époque. Donc ils avaient cette vision idéalisée de la Chine et ils voulaient effectivement mettre en place ce système où dans leur tête, effectivement, il y avait plus de liberté, il y avait effectivement plus qui était anticapitaliste. Ils étaient anticapitalistes. Certains ont voulu aller, je sais pas moi, aller effectivement dans le sud de la France ou dans les montagnes pour élever des chèvres, pour rejeter l'économie capitaliste, pour remettre. On a effectivement, je citerai pas le nom parce que le personnage un personnage polémique aujourd'hui, qui était toujours le cas, qui était aussi le cas avant, mais comme je ne l'ai pas, vous n'êtes pas devant moi, les enfants, je ne peux pas expliquer, compliquer, et j'aime bien dans ces cas-là bien expliquer. Donc, on a aussi à Nanterre, Nanterre, effectivement, on a la Sorbonne, des manifestations tous les soirs où on a des barricades, où on prend les pavés, les étudiants prennent les pavés pour défendre, on va rentrer dans la Sorbonne, on va tenir la Sorbonne. À Nanterre, c'est pareil, l'université de Nanterre, Paris 10, c'est pareil. Coucou, Université de Nanterre où j'ai fait mes études, pas à cette époque bien sûr, mais beaucoup plus tard. Un coucou à vous, voilà. Oui, ouais, non, oui, je ne peux, oui, j'avoue, une petite confidence. Oui, voilà, ça me rappelle mes années estudiantines. Voilà, donc voilà, donc on est dans cette période-là de grands bouleversements. Ça va changer la société pour les années qui viennent jusqu'à aujourd'hui. De Gaulle va rétablir l'ordre, mais il se sent désavoué. Et c'est vrai que ça va poser problème pour cette 5e République de Gaulle. Donc, mais ce qui va donner par la suite un nouveau changement dans la société, et ce changement, on le doit, oui, la conséquence de 1968. Donc je dis c'est la conséquence, parce que si j'y on le doit, ça veut dire que je donne déjà un avis, et si que, bon, il y a des choses positives qui vont sortir de là, et il y a des choses, bien sûr, qu'il faudra revenir, avec l'autorité parentale qui est remise en cause de cette époque. Et ce que le côté positif que moi je peux trouver en tant qu'enseignant, hein, c'est que à partir de avant, les élèves et les enseignants ne dialoguaient pas. Ne se parlaient pas, ils devaient obéir les étudiants, les élèves, etc. Bon, un dialogue, une autre relation a pu s'installer. Après, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, je pense que malgré tout, il faut garder des limites et on peut être tranquille, calme, cool, etc. Mais garder des limites et chacun a sa place, bien sûr, mais il y en a la possibilité d'être plus à l'écoute. Des enfants, oui, Marmaille, des enfants. C'est ça qui est intéressant, avec des bonnes choses qui sont sorties de là et bien sûr des choses négatives. On ne peut pas dire que tout était bien ou que tout était pas bien. Ça sera une autre histoire. Donc De Gaulle sort effectivement un peu désavoué de cette histoire de mai 1968 et en 1969, De Gaulle va organiser un référendum sur les régions. Il veut donner plus d'autonomie aux régions. Oui, il faut que j'explique. D'accord, je dois expliquer. Lève la main la prochaine fois. Oui, les régions, on a ce qu'on appelle pendant cette période des régions programmes. On avait découpé des régions, on avait regroupé les départements. Ce n'est pas valable pour la Réunion, bien sûr, puisque ce n'est pas encore le cas. La Réunion, à l'époque, est un département d'outre-mer. Je renvoie à une autre leçon depuis 1946. Et en métropole, en France métropolitaine, vous avez des départements depuis la Révolution française. Donc, dans les années 1960, pour mieux gérer, on va dire, la France, l'administration, et surtout, effectivement, le développement économique, on a regroupé les départements en régions. Mais ces régions n'ont pas de pouvoir. C'est seulement des régions administratives pour pouvoir mieux organiser le pays. Et De Gaulle propose de donner de véritables pouvoirs aux régions. Et il propose un référendum. Les Français vont répondre non. Vont répondre non. Et après ce non, De Gaulle n'est pas obligé de démissionner. C'est un référendum. Il y a d'autres présidents par la suite qui ont été désavoués pendant un référendum et n'ont pas pour autant démissionné. Donc De Gaulle prend ce référendum comme un plébiscite en disant effectivement, les Français ne veulent pas de ma réforme, donc il décide de démissionner. Il décide de démissionner et il ne reviendra plus au pouvoir, puisque effectivement, ça sera, on va dire, à la fin des années De Gaulle. De Gaulle démissionne. On reverra la suite demain, mais on peut dire effectivement que son idée de région, donner plus de pouvoir aux régions, tout simplement, ça sera mis en place dans les années 1980. Certains diront De Gaulle avait déjà de l'avance par rapport aux autres, avec cette idée de donner plus de pouvoir aux régions qui aient leur propre budget et leur propre politique, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, notre leçon est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, c'était le début de la Ve République, hein, avec les années de Gaulle. Donc, demain, non, ce ne sera pas demain. Ça sera effectivement la prochaine fois pour le cours de troisième, puisque demain, ça sera un cours de quatrième. Ça sera la prochaine fois pour le cours de troisième. On parlera de la suite avec la Ve République. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en Marmaille, que vous êtes bien réveillé, hein. La sorte de la couette, il dit, ouais, monsieur, nous coûte à où, mais nous sous la couette, il commence à faire frais un petit peu là en ce moment. Vous avez raison, mais il faut pas être sous la couette, il faut bouger un petit peu. Voilà, donc je remercie à toutes et à tous. Merci à Simi pour les programmations sur Radio Soleil et pour tous les schémas, tout ça, c'est bien fait. Qui met sur Facebook pour ceux qui peuvent aller, pour mieux comprendre ce que je dis parfois, surtout quand je parle de l'organigramme des institutions. Merci à Laurent pour la programmation du podcast sur Radio Soleil, à Anne Leclerc, la documentaliste du collège Jules Solès, qui est toujours présente et qui effectivement met tout ça sur le site du collège Jules Solès. Merci à Yann Ériel pour les diffusions et surtout pour sa confiance et pour suivre ses conseils et ses conseils autres. Merci les marmailles de Ériel. Merci à Félix de Sunlight pour la diffusion sur Radio Sunlight. Coucou, hein, au revoir les marmailles de Sunlight. Et bien sûr, là, je dirais un grand, grand merci à tout le personnel de l'administration, hein, du collège. Aussi, bien sûr, je fais un grand merci pour les écoles élémentaires, primaires, me confond toujours élémentaires, primaires, maternelles, parce que c'est pas évident pour tous les collègues et tous les chefs d'établissement, effectivement, de travailler aujourd'hui dans ces conditions. On doit faire attention à tout, mais ils sont présents, donc c'est un gros, gros travail. Et grand merci à eux, au principal adjoint Laurent Robuffet, au principal Daniel Gauvin, principal du collège de Solesse, et tous les autres principaux et tous les autres principaux adjoints, bien sûr. Bon, là, je voudrais quand même dire un grand merci aussi aux surveillants et surveillantes, hein. Bon, on appelle les AED. Donc, ici, on a Maïva, Pascal, Lucie. Ailleurs, il y aura Henri, il y aura peut-être d'autres personnes. Bon, ces personnes-là sont présentes et sans ces personnes, il serait difficile de fonctionner correctement. Donc, ce sont vraiment des personnes relais très importantes. Merci aux CPE qui font un travail extraordinaire. Je dis merci à tous ces gens, hein. Je prends un petit peu de temps parce qu'effectivement, sans eux, on ne pourrait pas ouvrir ces établissements. Merci au personnel de la vie scolaire. Merci aux CPE. Merci à la secrétaire qui est les secrétaires de tous les collèges qu'on présente. Le personnel administratif qu'on a tendance à oublier, hein. Ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont occupés effectivement, je sais pas moi, du budget, du etc. ou de la gestionnaire, ceux qui sont gestionnaires adjoints, etc. On ne pourrait pas fonctionner sans eux. Un énorme merci, énorme, énorme merci au personnel Atos, les personnels de service, les monsieur, les dames de service qui sont présents à l'accueil, qui sont présents aux cuisiniers, qui sont présents en cuisine, qui sont un grand, grand merci à eux, qui sont présents pour nettoyer les salles, nettoyer les tables, qui sont là. Et sans eux, vraiment, on ne pourrait pas fonctionner. Un grand, grand, grand merci à vous. Donc j'ai terminé là-dessus aussi pour en disant un bon courage à tous les lycéens et tous les lycéennes, les lycéennes et lycéens qui découvrent depuis quelques jours Parcoursup et qui découvrent leurs résultats. J'espère que vous avez à peu près ce que vous voulez. J'espère effectivement que vous n'êtes pas trop déçus. Et un grand merci à vous, hein, pour si vous nous écoutez, vous avez passé vos années au collège aussi. Bon, bon courage et bon courage aussi à ceux qui terminent leur formation dans les universités, dans les DUT, dans les BTS. Je sais que ça ne sera pas évident pour vous, dans les conditions actuelles, effectivement, d'aller là où vous voulez, si vous avez choisi la métropole ou autre. C'est pas évident du tout. Dans tous les cas, collégiens, ça soit effectivement l'école primaire, maternelle, etc., Marmaille, tous les Marmailles, les parents, machin, restez vigilants, faites attention, effectivement, le virus, il circule toujours, même s'il est pas, même si nous l'est encore en zone verte, on l'est toujours en zone verte, on a dit encore, si nous l'est toujours en zone verte, il faut que nous restions en zone verte, d'accord? Donc faites attention, brade pas trop, machin, même pas du tout, gardez les distances physiques, bien sûr. Puisqu'on peut effectivement rester socialement ensemble, du moment où on a ces distances physiques. Voilà. Donc je remercie de m'avoir écouté et je remercie effectivement tous ceux qui sont autour de nous pour tout ça. Et j'aimerais dire merci à plein, plein de monde. Et si c'était que moi, j'avais envie de prendre des câlins à tout le monde et de dire merci, merci, merci. Mais là, on ne peut pas. Donc câlin virtuel à tout le monde. Hein. Oui, mais les parents, non, non, on ne me fait pas de câlin aux élèves habituellement, inquiète pas. Hein. Donc câlin virtuel à tout le monde. Et mes amis, effectivement, restez sur nos ondes et à bientôt sur nos ondes respectives.